Notre grand témoin cette semaine est un jeune homme originaire de Valréas. Son chemin l'a amené un peu partout en France, sur des lieux assez... Et aujourd'hui, il vit à Bolène. Et je l'ai invité dans notre émission parce qu'il a ce site particulier. Marc Garetto, vous avez composé un Stabat Mater. Bonjour Marc.
Bonjour Hélène.
Composer une œuvre, c'est dingue ça.
Écoutez, c'est vrai que ça peut paraître dingue, surtout une œuvre quand même de grande envergure, parce que la composition, c'est une passion depuis toujours. J'ai commencé la musique quand j'avais 6-7 ans au piano.
Vos parents jouaient de la musique? Comment ça vous a pris? Comment vous avez approché d'un piano?
Assez étonnamment, mes parents ne sont pas musiciens. Ma mère jouait de la guitare comme ça, mais sans être vraiment assidue. Mais par contre, c'est vrai que ça a été un coup de cœur. Elle m'a proposé de m'inscrire à la musique et ça m'avait tout de suite charmé. Donc j'ai joué de plusieurs instruments, piano, saxophone, flûte traversière. Et la composition m'a accompagné très tôt. Je me rappelle mes premières compos, les avoir montrées à mon professeur de 6e, à la prof de musique au collège. Alors c'était vraiment rudimentaire. Mais au début de l'informatique, en plus, alors je les avais saisis, vous savez, avec les fichiers MIDI et tout ça. Ils me disaient, c'est chouette que tu sois passionné, essaye de jamais le perdre. Alors, la vie fait qu'il y a des moments où j'ai pas pu me consacrer à la musique ou à la composition, mais c'est revenu et maintenant j'ai la chance de vivre, de travailler comme arrangeur musical.
C'est pas rien quand on est enfant d'étudier la musique parce qu'il faut... Il y a le solfège à apprendre, hein. Il faut y aller régulièrement au conservatoire, il faut se taper des heures et des heures de répétition à la maison. Pour vous, c'était pas trop compliqué ?
Bah écoutez, c'était assez ludique parce que j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui étaient compétents.
Justement. À quelle école vous étiez ? Parce qu'on va leur rendre hommage à ces professeurs.
Je veux bien leur rendre hommage. J'étais au KM de Valréas, donc qui était une petite école de musique dirigée à l'époque par un monsieur qui s'appelle Benoît Morin et qui maintenant habite vers Blois. Donc un monsieur qui était passionné, qui a su transmettre la passion. Ma prof de piano que je côtoie encore puisqu'elle habite toujours Valréas. Donc voilà, si vous voulez, c'est venu de ça. Ma prof de solfège même, puisque c'était parmi aussi les matières, vous avez raison, les plus rébarbatives, qui s'appelle Corinne Flamand, qui habite à la Bégutte de Mazin, qui est une amie maintenant avec qui je joue encore de la musique parfois. Donc si vous voulez, ça
ils
a été tous ces rencontres.
Ils ont su vous transmettre une joie d'apprendre, sans doute.
Exactement, c'est ça. Justement.
Ils ont reconnu chez vous aussi sans doute un talent.
Peut-être, ça ce serait à eux de le dire, mais voilà.
C'est-à-dire que parmi les élèves de l'école de musique, il n'y en a pas beaucoup qui sont devenus compositeurs.
Ça, c'est possible. Je pense qu'il y en a même beaucoup qui ont arrêté parce que voilà, on pratique parfois la musique comme un loisir sans forcément évidemment faire sa carrière. Oui.
Vous apprenez la musique, vous exercez plusieurs instruments, le piano, le saxophone. En 6e, vous avez commencé votre première composition. C'était quel genre de composition?
Alors pour tout vous dire, c'était, vous savez, ça peut paraître un peu ridicule parce que voilà, c'est les vies d'enfants, mais avec un copain, je me rappelle, lui, il était féru de jeux vidéo, il avait fait une espèce d'ébauche de jeux vidéo et il me disait mais il faudrait qu'il y ait une musique et déjà on travaillait, alors évidemment dans le vide, mais on travaillait sur un projet de jeux vidéo et j'avais fait de la musique pour son jeu.
Ah oui, ça, je reconnais bien là des garçons
de 10-11 ans,
oui,
voilà,
c'est ça. Parce que bon, j'ai moi-même un fils et les jeux vidéo ont beaucoup de place et d'ailleurs je me souviens qu'à un moment il me faisait écouter, tiens regarde maman tel jeu, il y a une musique magnifique dessus. C'est pas négligeable.
C'est vrai que c'est un marché qui, les musiques de jeux vidéo, les musiques de films, c'est actuellement là où on retrouve le plus, je trouve, de créativité musicale finalement. Souvent plus que dans la variété parce qu'il y a un champ qui est ouvert à l'imaginaire en fait dans ces fictions.
Au collège, vous prenez une direction vers la musique ou pas ?
Alors pas vraiment parce que en ayant grandi à Valréas, un peu loin des grandes villes et tout ça, on n'avait pas non plus de conservatoire ou de facilité pour ça. Donc j'ai poursuivi, si vous voulez, j'ai eu la chance aussi et finalement ça venait, vous voyez, de quelque chose de négatif à la base mais qui a débouché sur du positif, c'est que le piano classique avec ma première professeure à un moment m'a complètement saturé. Donc j'ai souhaité arrêter. J'ai arrêté en fait même le piano, mais mon directeur m'a dit quand même ça vient peut-être de ta prof qui t'as fait le tour avec elle et il y avait une deuxième prof qui faisait des choses beaucoup plus ludiques, de la musique de film, des ragtime, et il m'a dit on va essayer ça et alors là je suis reparti pour 4 ans de piano avec un grand plaisir.
Donc le directeur du conservatoire
le fameux,
vous a...
Ah voilà. Oui. Et puis 4 ans après ça a été la même chose. J'ai dit, bon, je crois que j'en ai fait le tour parce que je suis quelqu'un, non pas qui se lasse, mais qui cherche toujours de l'émulsion, de la nouveauté. J'ai besoin, voilà, que ça bouge. Et donc,
écoutez, vous êtes un créateur. Qu'est-ce que je vais vous dire? C'est comme ça.
Donc finalement, il m'a dit, on a un nouveau prof qui est arrivé l'an dernier, qui lui fait vraiment du piano jazz, variété, pour apprendre les accords, etc. Donc j'ai fait ça, un piano plus vraiment sur le travail harmonique et variété. Et donc ça m'a permis d'avoir trois approches différentes de l'instrument et du coup de la création. Parce que le piano est un instrument qui se prête beaucoup à la composition. C'est vrai.
Oui, vous êtes dirigé vers quoi comme formation
alors,
supérieure du coup ?
Après, j'avais une seconde passion et qui a été pendant plusieurs années mon travail, c'est que donc, j'ai fait un bac scientifique parce que je suis passionné de mathématiques.
Et, les mathématiques et la musique, il y a quelque chose qui va ensemble quand même.
C'est vrai. Quand on écoute Jean-Sébastien Bach, on sait qu'il y a de l'arithmétique derrière tout ça.
Ah, ça, je savais pas, mais c'est vrai que moi qui anime parfois des chants, je me rends bien compte qu'il faut connaître. Il y a le rythme, c'est très mathématique,
C'est vrai. Le rythme, je vous dis, même il y a une rigueur harmonique en fait qui se retrouve assez souvent, donc c'est vrai que ça va assez bien ensemble.
Donc votre passion scientifique.
Alors ma passion scientifique, elle m'a amené juste à avoir un bac S très réussi avec une prof de maths qui voulait m'envoyer dans des grandes écoles pour devenir ingénieur, ce qui était hors de question pour moi parce que c'était l'art et rien d'autre. Et donc ma deuxième passion artistique, c'était le cinéma, justement. Donc j'ai fait une école de cinéma à Nice. J'ai travaillé plusieurs années sur des tournages de films comme régisseur ou assistant réalisateur.
Vous, c'était le cinéma, mais derrière...
Derrière la caméra,
derrière
pas
la
comédien.
Caméra, où il y a une grosse équipe. Oui. À mon avis, l'équipe technique est plus importante que l'équipe des acteurs.
Oui, à part si on a évidemment 300 figurants, ce qui peut arriver sur certaines scènes. Mais sinon, en général, par contre, c'est en effet 40 à 60 personnes dans une équipe de tournage.
De toute façon, les 300 figurants, c'est pour quelques scènes, c'est pas des jours entiers.
Non, c'est ça. Mais les 40 sont pas sur le plateau, parce qu'il y a la production, il y a la régie, il y a les costumes, tout ça, ils sont un peu en dehors. Mais en tout cas, voilà, ça m'a amené à vivre des belles choses. Puis ensuite, j'ai de moi-même choisi d'arrêter parce que j'avais un besoin de fonder une famille. Je voulais avoir des enfants, ce qui s'est fait. J'ai deux merveilleux enfants de 8 et 10 ans. Les années sont passées et donc en parallèle de ça, je me suis remis à écrire, à composer, à arranger de la musique. Depuis, on va dire, 2010-2012.
Revenons quand même sur cette période où vous faites cette école de cinéma et vous vous intéressez particulièrement à l'arrangement musical. Mais au départ, vous faisiez quoi? Vous étiez plutôt derrière à envoyer la musique au bon moment ou est-ce que vous composiez déjà? Comment ça marchait?
Pour le cinéma?
Ouais.
Non, pour le cinéma, en fait, j'étais pas vraiment en lien avec la musique. C'est-à-dire
D'accord.
que là, c'était vraiment l'école elle-même. C'était une école qui formait un peu à tous les métiers. Mais j'avais, moi, vraiment un attrait aussi pour la mise en scène de cinéma.
Ouais.
Donc là aussi, la création. Alors, j'ai réalisé deux courts-métrages dans le cadre de mes études. Évidemment pour lesquels j'ai composé les musiques, mais ça c'était obligatoire pour moi. Mais si vous voulez, il n'y a pas eu d'autres débouchés au niveau musical et cinéma. Il n'y a pas eu d'autres liens. Voilà, la musique, ensuite, je me suis remis, mais sur un plan purement
orchestral. Donc quand vous avez fini cette formation, il a bien fallu que vous trouviez du travail.
Oui, alors justement, j'ai travaillé comme régisseur, c'est-à-dire que c'est toute la logistique, l'organisation des tournages. J'ai travaillé régisseur ou assistant réalisateur, ce qui est en fait l'encadrement du tournage. Très prenant, c'est des journées de 10 heures, 12 heures, 14 heures. J'ai adoré ça, mais effectivement, à un moment, j'ai dû choisir parce que je savais que je ne pourrais pas concilier cette vie-là avec une vie de famille. Donc,
Renommez-moi quelques œuvres sur lesquelles
quelques
vous avez
tournages.
Travaillé.
Alors, dans les célèbres, vous avez peut-être vu, alors ça remonte ce que je vous dis, aux années 2000. Hein. Donc, j'ai travaillé sur l'affaire Dominici, par exemple, qui avait été fait avec Michel Serrault et Michel Blanc en téléfilm. Alors ça, on avait tourné vers Digne-les-Bains, hein, dans la région, pas loin de la région d'origine. Une série pour TF1 qui s'appelait Zodiac, aussi avec Francis Huster. C'est une espèce de saga de l'été qui était tournée en région aixoise. La fille de Monaco avec Fabrice Lucchini. Et puis un seul film américain, mais notable quand même, qui s'appelait Une grande année avec Russell Crowe.
Russell Crowe, j'aime beaucoup cet acteur.
Alors quand vous vous levez le matin et que vous avez Russell Crowe sur le plateau en face de vous, ça fait bizarre. On dirait quand même, j'ai un peu réussi mon pari de et réalisé rien que ça par Ridley Scott quand même. Ridley Scott, réalisateur de Alien, Christophe Colomb,
Comment
Gladiator.
Comment sont venus vous chercher?
Alors, c'est plutôt moi qui allais chercher du boulot, mais en tout cas, si vous voulez, c'était tourné dans la région de Gore, de tout le Luberon.
Okay.
Donc, en étant ici, ils cherchent souvent des régisseurs locaux qui connaissent bien les lieux, qui peuvent, et qui peuvent être logés parce qu'ils sont tout près de chez eux. Donc, ça, pour les productions, c'est évidemment des économies d'embaucher des gens du secteur.
Oui.
Donc c'est une chance, mais
il y a
mais
peut-être plus
voilà.
de chances d'avoir aussi une autorisation de tourner si on embauche des gens du local, quoi, non ?
C'est vrai que quand j'allais avec mon accent demander « Est-ce qu'on pourrait tourner dans votre café ?», c'était peut-être mieux que si un Américain venait le demander.
« Est-ce que nous pouvons ?» Et vous devez avoir de ces anecdotes avec... attendez, Luchini, vous avez côtoyé Luchini ?
Oui, alors en plus, Luchini, ce qui était sympa, c'est que j'étais donc... les régisseurs, si vous voulez, on gère aussi le transport, l'hébergement des comédiens, enfin de l'équipe en général, mais donc des comédiens. Et donc, voilà, j'étais son chauffeur, entre guillemets, mais c'est moi qui le transportais. Donc voilà, ça permet effectivement d'avoir des fois des relations privilégiées avec des comédiens et de découvrir qu'ils sont d'ailleurs... très loin parfois de ce qu'on voit à l'écran, ce qui est...
Il joue un rôle, hein.
Il joue un rôle, voilà. Mais notamment Francis Huster, qui est un homme délicieux, qu'on pourrait parfois penser très théâtreux, vous savez, un peu dans la bourgeoisie parisienne, mais pas du tout vraiment quelqu'un d'extrêmement accessible, très drôle, très joueur. D'ailleurs, il a fait après, j'avais vu des pièces de théâtre sur l'amour du jeu, parce que c'est quelqu'un qui pariait avec toute l'équipe, sur tout et n'importe quoi. Qui va avoir tel César est-ce que... enfin voilà, c'était très drôle.
Vous avez aussi travaillé à des arrangements musicaux pour des films, non ?
Alors, non, uniquement pour des courts-métrages.
D'accord.
Voilà, ça, j'ai pas eu la chance de... Alors, ça viendra peut-être dans le futur, parce qu'on peut présumer de rien. Je viens de changer de décennie, mais j'ai quand même que 40 ans. Donc, j'espère aussi pouvoir, pourquoi pas, avoir l'occasion de composer pour le cinéma.
Donc, vous avez plaqué tout ça.
Oui.
Vous avez fondé une famille.
Tout à fait.
Vous avez lâché la musique pendant un moment.
Oui, aussi à cette période, on va dire de 2006 à 2012-2013, j'étais vraiment plus là-dessus. Donc j'étais sur construire ma maison, avoir des enfants qui sont nés en 2012-2014. Et d'accord. En fait, d'ailleurs, c'est, vous voyez, en parlant que je me rends compte que c'est le moment où il y a eu une espèce de déclenchement et où je me suis remis à la musique.
Quand les enfants sont venus.
Ben oui, finalement, ça a été un déclencheur. Donc j'ai dirigé quelques harmonies locales qui m'avaient sollicité, où je jouais parfois, donc là, notamment l'harmonie de Saint-Paul-Trois-Châteaux, l'harmonie de Nyons aussi, où j'avais joué, qui cherchait en intérim un chef. Donc j'ai dirigé, à partir de 2012, ces orchestres associatifs, hein, donc entre musiciens et amateurs. Et puis j'en profitais du coup pour faire des arrangements que je leur proposais, qu'on jouait, et voilà. Et puis petit à petit, si vous voulez, je me suis vraiment consacré à travailler à l'arrangement musical, donc c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, l'arrangement, c'est le fait de transcrire une œuvre, par exemple une symphonie de Beethoven, qu'on va réadapter, réduire, simplifier ou quoi, pour un orchestre qui est différent de l'orchestre symphonique d'origine. Voilà. Donc ça me permet de...
C'est un travail parce que réduire quoi ? Est-ce que telle chose je garde ou pas ?
Oui, tout à fait. C'est ce qui est intéressant, c'est que dans l'arrangement, on retrouve quand même un côté créatif. On est obligé de faire des choix, on a vraiment un parti pris qui doit être fait, donc pour que ça soit jouable, surtout par des amateurs, mais qu'on garde l'essence, on est obligé de, voilà, de se creuser la tête. Mais c'est intéressant aussi, justement, quand on aime les sciences et qu'on aime
cogiter. Et dernièrement, vous avez pu quitter cet emploi plus administratif dans lequel vous étiez consacré pour fonder votre famille, ramener un peu, faire bouillir la marmite, quoi.
Voilà.
Et maintenant, vous pouvez vivre de votre composition, de
tout
vos arrangements.
Tout à fait. Alors, surtout des arrangements, effectivement. J'ai la chance, depuis 4 ou 5 ans, de travailler pour une société qui fait des partitions interactives. C'est une société qui s'appelle Tomplay, qui propose une application, Tomplay, qui permet de jouer avec une bande-son. C'est un peu un karaoké, on va dire,
oui,
pour les instrumentistes.
D'accord.
D'accord. Donc, vous avez la partition qui défile, vous jouez, vous pouvez changer le tempo, changer le volume de tout ça. Et donc, vous avez une bande-son d'orchestre, donc ça permet dans son salon de jouer, voilà. Et j'adapte donc les morceaux pour tous les instruments avant, pour eux.
C'est cool.
Voilà, donc ça c'est mon métier régulier, récurrent, et en parallèle, évidemment, je continue mes arrangements pour orchestre et mes compositions, mais alors les compositions, c'est vraiment pour la passion, parce qu'évidemment, c'est pas ça qui me ferait manger non plus.
Et parmi les compositions, on y arrive. Vous m'avez pris contact avec Radio Ecclesia parce que vous avez composé un Stabat Mater. Mais qu'est-ce qui vous a pris ? Comment ça vous est venu ? Parce que je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est une œuvre maîtresse, Stabat Mater, et que ça vous a percuté ? Ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi en vous disant « je vais composer un truc qui va être vraiment iconique, une œuvre maîtresse » ? Ou est-ce que ça vous a pris sans savoir pourquoi ?
Alors, ça m'a pris... C'est un peu un mélange de tout ça. C'est intéressant parce que vous avez analysé toute l'essence de... toute la genèse du projet, on va dire, justement. En fait, j'avais envie de créer une œuvre importante. Je me suis dit, bon, j'ai écrit beaucoup de sonates, des pièces courtes, alors soit pour piano et instruments, soit pour orchestre, parfois, mais des pièces, on va dire, autonomes, mais pas des pièces complètes, ce qu'on appelle des fois des œuvres complètes. Donc je me suis dit, est-ce que je me lance dans une symphonie au sens large, c'est-à-dire une grosse œuvre orchestrale de trois quarts d'heure, ou dans autre chose? Et en fait, j'avais assez peu envie de faire une symphonie. Assez naturellement, je me suis dit, je préférerais partir sur une pièce liturgique. La musique sacrée, pour moi, ça a toujours été une musique extrêmement parlante et à double sens, c'est-à-dire qu'elle a son sens musical pur et elle a toujours un sens
rituel
et même, d'élévation quoi, au divin, que ce soit d'ailleurs des compositeurs qui soient d'une religion ou d'une autre, je veux dire, il y a toujours eu un espèce d'élan dans la musique sacrée qui, voilà, et dans la musique et dans tous les arts sacrés d'ailleurs, quand on regarde la peinture qui se réfère à l'art sacré, l'architecture évidemment, donc
quelque chose qui nous élève vers le ciel,
oui,
en tout
voilà.
cas qui...
L'art et la religion, indéniablement c'est lié quoi, on voit que... On ne sait pas si c'est Dieu qui travaille pour les artistes quand ils créent.
Écoutez, mais... il paraît que ceux qui ont fait des fois l'expérience d'une mort imminente ont entendu des chants absolument magnifiques.
Mm-hmm.
Alors, il y a quelque chose de céleste, il me semble. Hein. Pour moi, ça me semble. Donc, cette œuvre, pourquoi je t'abatte maintenant?
Alors, pourquoi? Parce que je me suis dit, si je pars sur des œuvres courantes, complètes, liturgiques, ça pouvait être un requiem, comme l'a fait Mozart en fin de vie d'ailleurs, mais c'était, ou comme l'a fait Fauré, enfin beaucoup d'autres compositeurs, hein, il y a des requiems extraordinaires, mais justement il y avait un côté quand même, c'est la messe des morts, je me suis dit commencer par une première œuvre comme ça, c'était, il y avait une certaine lourdeur, et puis il y avait évidemment un Stabat Mater, parce que je suis passionné de la, alors il en existe là aussi des dizaines, hein. Il y a des Stabat Mater de Vivaldi, de Pergolèse, de Rossini, de Francis Poulenc dans les plus récents, voilà. Donc il en existe beaucoup, mais celui de Pergolesi est vraiment un chef-d'œuvre pour moi, chef-d'œuvre absolu. C'est un musicien italien qui est assez peu connu d'ailleurs du grand public, mais qui est mort à l'âge de 29 ans et qui a laissé malgré tout de nombreuses œuvres, dont un Stabat Mater extraordinaire qui vraiment est entre le baroque et le classique, qui ouvre la voie vraiment à la période classique et qui est... vraiment somptueux. Donc c'était, si vous voulez, aussi un choix qui s'est porté là-dessus. Et la deuxième chose, c'est évidemment la thématique de cette séquence liturgique qui me parlait, c'est-à-dire que ce soit relatif en fait à la mère, relatif à la souffrance aussi du Christ. En fait, cette séquence, je me suis dit, elle parlera à tout le monde parce que c'est la, donc le Stabat Mater, c'est la séquence, vous le savez mieux que moi, j'imagine d'ailleurs, mais je vais le décrire, mais c'est la séquence qui décrit la souffrance de la Vierge Marie lors de la crucifixion de Jésus. Je me suis dit, voilà, cette séquence, qu'on soit croyant ou non croyant, même les athées vont comprendre en fait le sens de cette séquence qui décrit la souffrance d'une mère face à la mort de son fils. Quoi. Voilà, je me suis dit, c'est universel, là,
c'est sûr.
Voilà.
Et vous-même étant maintenant papa,
tout à fait.
Vous comprenez mieux aussi le lien qui unit un parent à son enfant.
Tout à fait. Donc voilà, je me suis vraiment basé sur cette séquence de... Alors c'est un texte, je crois, qui date des années 1300, ça je ne voudrais pas dire d'erreur, mais c'est un moine qui a rédigé cette séquence, qui est après devenue voilà, vraiment inscrite à la liturgie. Mais donc chacun des 12 mouvements de la pièce musicale s'appuie sur le déroulé de ce texte, puisque c'est une pièce avec orchestre et chœur.
Et vous avez même sorti un petit album. Vous l'avez même imprimé, je veux dire, un CD existe de vous, Marc Garetto, Liturgie, Stabat Mater et autres œuvres composées et dirigées par vous, Marc Garetto.
En effet, il comprend les 12 mouvements, les 12 pistes du début du disque sont le Stabat Mater lui-même. Et en effet, derrière, il y a 4 autres pièces de type liturgique qui sont des pièces plus courtes, autonomes, un Laudate Dominum, le Chœur du Chœur qui serait un cantique plus moderne, on va dire, un Ave Maria que j'ai composé d'ailleurs, qui est dans mes toutes premières compos de redémarrage, il date de 2012.
Donc, au moment de la naissance de votre
oui,
premier enfant.
Et là aussi, en fait, c'est vrai qu'en y réfléchissant, quand je me suis relancé, c'était sur une pièce de musique sacrée, comme un espèce d'appel, bon, vous voyez. Et la Veillerum Corpus, qui est le plus récent, composé alors en toute fin, en septembre 2022, et donc il y a quelques mois, et seulement un mois et demi, deux mois, avant que le disque soit édité, si vous voulez, il s'est fait d'un élan, on l'a enregistré un peu en express, mais un monsieur qui s'appelle Yvon Brahic, qui était le directeur de mon collège à Valréas, qui était aussi le directeur de la chorale Diapason, monsieur extrêmement pieux, en lien avec l'église. Moi, j'ai été dans un collège qui était semi-privé, et voilà, c'était plus les sœurs qui donnaient les cours, mais c'était le cas à l'époque où ma mère y allait, à Saint-Gabriel. Et donc, Yvon Brahic est décédé en septembre 2022, et j'avais commencé à écrire cette pièce, et le fait, si vous voulez, qu'il décède pendant l'écriture m'a poussé à vite le terminer et à le rajouter sur ce disque, voilà, comme un hommage. Donc, la pièce lui est dédié, d'ailleurs c'est noté dans le livret, voilà, pour le CD.
Écoutez, une grande joie de découvrir, eh bien vous Marc, qui êtes compositeur, c'est pas fréquent que je rencontre des compositeurs, entre autres d'un Stabat Mater. Quel style vous lui avez donné ?
Alors, c'est une très bonne question. C'est un style un peu hybride, justement, qui découle de toute mon expérience et puis de tout l'héritage des siècles là, sur la musique, mais... Les gens qui l'ont écouté, d'ailleurs, m'ont fait des retours qui, parfois, étaient plus neutres que ce que je pourrais en faire. Alors, je vais vous le dire. On m'a dit, c'est intéressant parce qu'on sent, on a l'impression que plus on avance, plus les mouvements sont modernes, en fait. Donc, c'est pas forcément volontaire. Ça, en tout cas, c'est vrai qu'il y a certains mouvements qui sont volontairement inspirés du baroque tardif de Pergolesi, donc notamment le mouvement d'ouverture, Stabat Mater Dolorosa. Ensuite, il y a des choses assez modernes dans le style qu'on pourrait apparenter à de la musique de film, hein, où j'ai une certaine attirance. Et puis, il y a des choses qui sont dans un style plutôt classique. Hein. De toute façon, je vous avoue, le seul style qui ne sera pas représenté, parce que je n'ai pas vraiment d'affinité, c'est ce qu'on appelle la musique contemporaine, un peu dissonante ou quoi. Voilà. D'ailleurs, contemporaine qui ne l'est plus, parce que le mot... C'est ce qui me fait toujours d'ailleurs à sourire, c'est que le mot contemporain, on l'a un peu figé sur une époque qui n'est plus contemporaine.
Qui n'est plus contemporaine. Margaretto, si jamais des auditeurs souhaiteraient écouter cette œuvre ou se l'approprier, comment ils peuvent s'y prendre ?
Alors, ils peuvent tout simplement chercher sur un moteur de recherche Marc Garetto Liturgie, en tapant donc le nom de l'album Liturgie, Stabat Mater. Et là, ils vont tomber sur le site qui le distribue, qui s'appelle Harmonie Édition.
Eh bien, c'est magnifique. Voilà. Et puis, on va proposer aux auditeurs de découvrir votre œuvre dans une autre émission. On va même l'écouter avec vous. Comme ça, vous allez pouvoir nous accompagner dans cette œuvre et nous aider, parce que vous y avez sûrement beaucoup plus médité qu'aucun d'entre nous qui vous écoutons, là, ou déjà moi. Et du coup, on va profiter de ce beau travail que vous avez fait. Merci d'avoir accepté d'être l'invité dans ce grand témoin d'Ecclésia.
Merci à vous.